Vous écoutez
RMC.
Il est 7h, excellent réveil à tous, merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Pagaille sur les rails en pleine canicule et un sacré coup de chaud pour des centaines de voyageurs sur la ligne TGV Paris-Nice. Bloqué en rase campagne pendant plus de 8 heures sans climatisation. Deux adolescents, toujours en garde à vue ce matin à Rennes, deux jours après la mort d'un jeune garçon de 11 ans retrouvé sur les bords de la Vilaine. Une serviette nouée autour de son cou et les adieux de Gaël Monfils à la terre battue de Roland Garros, battu hier soir en 5-7 par Hugo Gaston.
Retour à la normale ce matin sur les rails.
C'est ce que nous dit la SNCF au lendemain d'une journée de cauchemar pour des centaines de naufragés du train. Deux TGV immobilisés, bloqués plus de 8 heures sans électricité ni climatisation sous une chaleur de plomb au nord de Lyon. Conséquence d'une panne électrique qui a provoqué des retards en série sur la ligne Paris-Nice. Dès les derniers trains sont arrivés à quai au cœur de la nuit. C'est le cas de ces voyageurs rencontrés à Gare de Lyon à 4h30 ce matin par notre journaliste Philippine Boulet. Des voyageurs usés par leur périple.
Là, je reviens de Bourg-en-Bresse. J'ai eu 4h30 de retard. J'allais pas rester en gare. Donc j'ai payé plus de 100 euros une nuit d'hôtel. Franchement, c'était ultra compliqué. Personne nous a prévenu si le train allait vraiment venir ou pas. Voilà, ça a épuisé tous les voyageurs, je pense. Moi, demain, je travaille à 9h. Enfin, demain, dans un instant. Donc ça va être une dure journée.
Ça a impliqué dormir par terre dans la gare, puis à 1h30 du matin, rejoindre un TGV qui nous a amenés pour arriver ici à 4h30, gare de Lyon. Ils auraient pu dire aux gens comme moi qui sont de la région, enfin, de ne pas partir, de reporter. J'ai des problèmes de santé, tout ça, donc je me dis je suis un peu amère de ce côté-là.
La chaleur à l'origine de plusieurs malaises en marge d'événements sportifs ce week-end. Après la mort d'un coureur dimanche à Paris, on a appris le décès d'une femme à Lyon dans une compétition sportive. Les autorités suivent la situation de près. Sébastien Lecornu présidera une réunion interministérielle sur le sujet de la canicule. Jeudi, les appels à la vigilance se multiplient. C'est le cas de la ministre des Sports, Marina Ferrari, qui sera votre invitée à 7h40 ce matin à Pauline sur RMC.
7h02, vigilance aussi si vous vous baignez.
Après un week-end particulièrement meurtrier, là aussi. On a appris hier la mort de deux personnes sur les plages bretonnes, décès aussi d'un jeune adolescent de 17 ans. Il se baignait dans la Marne, dans une zone a priori interdite à la baignade, Célestin Bougère.
Oui, c'est au niveau de l'ancien siège de Nestlé France que les jeunes ont plongé en début d'après-midi à Noisiel, situé à 36 km à l'est de Paris. D'après le service départemental d'incendie et de secours, le garçon a été vu par ses amis en train de couler près d'un barrage à une vingtaine de mètres de la berge. Les adolescents ont alors donné l'alerte. Une trentaine de pompiers sont intervenus, dont 5 équipes de plongeurs. En vain, tiré en dehors de l'eau, ce jeune de 17 ans n'a pu être réanimé. Il a été déclaré décédé vers 18h30. Le maire de Noisiel, dans un communiqué, a une pensée pour les parents et les proches de l'adolescent. Il assure qu'un arrêté d'interdiction de baignade dans la Marne avait été pris. Il appelle à la vigilance de tous pour éviter ce type de drame.
Et ce matin, 8 départements de l'Ouest sont en vigilance orange à la canicule. 20 sont en alerte jaune. C'est du jamais vu. Aussitôt dans l'année, plus de 350 records de chaleur ont été battus hier en France. Et cette vague de chaleur inédite et précoce, elle va se prolonger, voire même se renforcer. Aujourd'hui, avec des records de chaleur attendus, redoutés par ceux qui travaillent en extérieur. Marion Gauthier, Cassandre Brault.
7h-18h sous 40 degrés, mais plus de pauses autorisées aujourd'hui, souligne Frédéric.
Ça nous saisit, on n'est pas eu le temps de s'habituer.
Ce quinquagénaire récolte les déchets industriels et les transporte dans son entreprise de recyclage dans le Maine-et-Loire.
Les jambes qui deviennent de plus en plus lourdes, le casque chez nous est obligatoire, le casque muni d'une jugulaire en plus, donc ça... Sensation d'étouffement, c'est de plus en plus compliqué à gérer.
Dans le traitement de déchets, comme dans la restauration, les consignes sont les mêmes, s'hydrater, ventiler au maximum. Dans le bâtiment, certaines entreprises vont commencer plus tôt, mais en Vendée, où il y a tranché.
Je vais tout décaler à jeudi, pour voir si les températures ne sont pas trop élevées non plus jeudi. Au mois de mai, ça m'est déjà arrivé décaler un chantier par rapport à la pluie, mais jamais de décaler par rapport à une température aussi énorme.
Des chantiers au ralenti.
Excusez-moi, parce que j'ai chaud là aussi.
Souffle Virginie Chevalier de la CAPEB Ille-et-Vilaine.
À craindre des retards, une baisse du chiffre. Ce sont des périodes où le bâtiment fonctionne bien, les périodes de printemps et d'été. On va avoir encore une semaine catastrophique.
L'inquiétude pour elle, c'est que ces pics de chaleur se répètent.
Et deux autres conséquences de cette vague de chaleur, un épisode de pollution à l'ozone attendu dans les régions de Lyon et en Île-de-France, ainsi qu'un risque d'incendie élevé. Appel à la vigilance dans les Alpes de Haute-Provence.
7h05 sur RMC, circonstances toujours très floues qui entourent la mort de ce jeune garçon de 11 ans à Rennes.
Retrouvé dimanche sur une rive de la Vilaine à proximité du centre-ville avec autour de son cou une serviette mouillés, solidement noués. Deux jeunes adolescents ont été placés en garde à vue hier au lendemain de ce drame qui interpelle Amélie Courtet.
Toute la journée hier, des pompiers plongeurs ont fouillé le fleuve, la Vilaine, à la recherche du moindre indice. Tenus à l'écart par des rubalises du lieu où l'enfant a été retrouvé, les habitants, sous le choc, peinent à trouver les mots.
Je trouve ça terrible comme info, quoi. Je veux dire, c'est un quartier qui est quand même paisible.
Deux adolescents ont été placés en garde à vue pour meurtre. Une jeune fille de 15 ans qui s'est présentée d'elle-même au commissariat de Rennes et un jeune homme de 16 ans arrêté plus tôt dans la matinée à son domicile. Tous deux ont été vus en compagnie du garçon de 11 ans décédé, selon le procureur de Rennes. Un témoin affirme qu'ils pêchaient ensemble dimanche après-midi.
L'actualité ce matin, c'est aussi le retour des frappes américaines en Iran, des sites de lancement de missiles et des embarcations qui tentaient de poser des mines ont été ciblées par les États-Unis sans menacer les négociations de paix, nous dit ce matin le secrétaire d'État américain Marco Rubio à l'aube de nouvelles discussions au Qatar.
Une sortie soignée, celle de Gaël Monfils.
Le Français a fait ses adieux à Roland-Garros hier soir, battu au terme d'un long match en 5-7 face à son compatriote Hugo Gaston, moment fort en émotion que nous raconte Léna Marjac.
Une dernière bataille porte d'Auteuil de presque 3h30. Mené 2-7-0, puis revenu au score avant de s'écrouler dans la cinquième manche. Gaël Monfils a tout donné.
Bonsoir tout le monde. On y est. Merci, je vous aime tellement.
Voilà, Monfils et Roland Garros, c'est fini après une 19e et dernière participation.
C'est sûr que je reviendrai vous redire encore merci. Roland Garros, je vous dois tout et je vous dis à un de ces jours et merci pour tout ce que vous m'avez donné. Merci beaucoup Roland Garros.
Lui aussi a donné beaucoup de choses, déjà de la bonne humeur, toujours ce grand sourire et des coups de légende aussi, un vrai showman pour le public.
Merci pour tous ces moments que tu nous as fait vivre, pour toutes ces images que tu nous laisses.
Merci d'avoir cassé les codes du tennis à l'époque où il arrivait, il n'y avait pas autant de show. Il a donné une autre dimension à ce sport.
Sixième joueur mondial au meilleur de sa carrière, une demi-finale à Roland-Garros en 2008. Gaël Monfils a marqué son sport et hier soir, son adversaire Hugo Gaston s'en est presque voulu de l'avoir battu.
Je l'ai juste félicité, remercié et presque aussi excusé de l'avoir battu, quoi.
C'était la fin à Roland-Garros, certes, mais pas la fin de sa carrière. Gaël Monfils espère ranger officiellement sa raquette à Paris La Défense Arena en novembre prochain.
À suivre aujourd'hui l'entrée en liste de Loïs Boisson, révélation de la précédente édition opposée à la Russe Kalinskaya, 22e joueuse mondiale. Ce sera à vivre sur RMC, sur la radio digitale 100% terre battue. Au programme également du foot, Nice qui joue sa survie en Ligue 1 ce soir opposé à Saint-Etienne. Match aller des barrages sur la pelouse des Verts ce soir 20h45. Le PSG reprend l'entraînement ce matin à 4 jours de sa finale de la Ligue des Champions face à Arsenal. Et puis des nouvelles de Lionel Messi, sorti sur blessure hier avec l'Inter Miami, on vous en parlait, l'Argentin souffre finalement d'une fatigue musculaire plutôt rassurant, trois semaines de la Coupe du Monde. Ce sera à vivre sur RMC, radio officielle de la compétition.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h09, il y a Anne-Marie qui nous appelle au 32-16 depuis l'Oise. Bonjour Anne-Marie.
Oui, bonjour Apolline.
Bonjour ou bonsoir, parce qu'Anne-Marie vous travaillez la nuit, vous.
Exactement. Alors, ce que je voulais dire, c'est que cette nuit, j'ai pas travaillé, mais je viens d'enquiller trois nuits.
D'accord.
Donc, cette nuit, c'est celle de repos. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que la nuit, pour travailler, c'est impeccable.
Oui.
Ça, on est bien, on est quand même plus, c'est plus frais. Par contre, c'est la journée pour dormir, quoi.
Ben, c'est ça.
La journée pour dormir, on n'arrive pas à récupérer, donc le corps, il est deux fois plus fatigué.
Deux fois plus fatigué, vous êtes surveillante de nuit, mais dans quel secteur?
Dans l'handicap.
Dans le handicap, c'est-à-dire?
C'est des gens qui sont handicapés physiques dans des lits qui ne bougent pas, donc il faut leur donner à boire pour les changer.
Oui, donc c'est un travail actif la nuit, hein.
Oui, c'est actif. Ouais. Mais par contre, ça va. Les températures la nuit, ça descend quand même. Et, on a quand même 20, quoi. Donc ça va.
Ça a été cette nuit.
Cette nuit
vous étiez chez vous, mais ça veut dire que chez vous, il a fait frais.
Chez moi, la nuit, non, il fait pas très frais. Hein. Moi, j'habite dans l'Oise, non. Mais c'est la journée, quoi. La journée, c'est pénible pour dormir. On se rend pas compte qu'on n'arrive pas à récupérer, quoi. Vaut mieux travailler la nuit l'hiver.
Ouais, c'est ça. En fait, vous devriez avoir deux saisons, si c'était, voilà. Si c'était possible, Anne-Marie. Mais comment vous faites, du coup, la journée pour réussir à être vraiment bien dans le noir et à réussir à garder la maison fraîche?
Ouais, après, ça fait 30 ans que je fais les nuits, donc forcément, j'ai l'habitude.
Oui, on s'est habitué.
Ouais, mais par contre, de dormir dans le noir, j'y arrive pas, moi. Mmh. Et puis de dormir avec un ventilateur, j'y arrive pas non plus, parce que sentir le vent sur soi, j'ai horreur de ça. Donc je ne dors pas beaucoup, je dors environ 2 ou 3 heures par jour, quoi.
Oui, ça fait pas beaucoup. Donc prenez bien soin de vous, et finalement, vous devez être pas malheureuse du coup de retourner travailler au frais au moins.
C'est clair, parce que j'ai quand même la clim à mon boulot. Donc
voilà, il y a la clim au boulot. Merci Anne-Marie, en tout cas, d'être passée par le 32-16. Comme Anne-Marie, vous nous appelez au 32-16, vous nous dites comment vous gérez ou pas cette chaleur très chaud, plus chaud que jamais, très tôt. Il est 7h10 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Est-ce qu'il faut tout miser sur les pompes à chaleur? Alors évidemment, dans le contexte, quand on dit le mot chaleur, non, mais les pompes à chaleur, elles peuvent aussi rafraîchir d'ailleurs. Grande réunion ce matin à l'Élysée sur l'électrification de la France, et vous y serez. François Deroche, bonjour.
Bonjour.
Vous représentez la filière des pompes à chaleur en France. Alors pour sortir de notre dépendance aux énergies fossiles, Emmanuel Macron demande aux acteurs d'accélérer, et vous dites, présent, nous avons la capacité de produire 1 million de pompes à chaleur en France. Voilà votre parti pris dans un instant, vous nous le dites. Et vous qui nous appelez au 3216, artisans, vous travaillez peut-être dans le secteur justement des pompes à chaleur, ou alors vous êtes particulier, vous réfléchissez à en installer une. Vos questions et vos témoignages, c'est le moment au 32-16 sur RMC, 7h11.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 sur RMC et RMC Story. Les grandes entreprises de l'énergie, de la distribution, du BTP sont réunies ce matin à l'Élysée, et vous y serez aussi, François Deroche, bonjour. Vous représentez l'Association française pour les pompes à chaleur, les fameuses PAC. Emmanuel Macron veut accélérer sur l'électrification et vous y êtes prêts, c'est votre parti pris ce matin. Vous dites que l'objectif d'un million de pompes à chaleur made in France, c'est gérable, c'est réalisable.
Au niveau des adhérents de l'AFPAC, nous avons des industriels, évidemment, et donc qui sont représentés par le syndicat Uniclimat. Et Uniclimat nous annonce que, oui, actuellement, on a des capacités de production de 300 000 pompes à chaleur RO en France, 350 000 chauffe-eau thermodynamiques. Vous savez, sur les pompes à chaleur, il y a différentes technologies qui sont disponibles. Les capacités de production sont là. Les investissements ont été faits dans le cadre du plan Industrie verte 3ICV. Oui, on est prêt pour atteindre cette ambition. Il y a quand même quelques...
J'imagine, vous allez y venir. Mais
quelques points de vigilance.
Mais deux choses tout de suite. D'abord, la question quand même des consommateurs et de leur attrait ou non pour les pompes à chaleur. On a l'impression qu'il y a eu un boom des pompes à chaleur. Et puis, ensuite, une dégringolade du marché, moins 40% sur 3 ans. Comment vous expliquez ça? Et est-ce que vous avez l'impression que c'est possible de repartir, qu'il y a un rebond des pompes à chaleur?
Bon, déjà, on a vendu et installé 355 000 pompes à chaleur en 2022, donc c'est possible. Mmh. Ça, c'est déjà le point positif. Bon, les critères du fait qu'on ait eu ces soubresauts sur le marché de la pompe à chaleur sont liés à de nombreux facteurs externes, hein, c'est multifacteurs, on va dire. Il y a eu un problème sur le bâtiment. Il y a les conflits aux portes de l'Europe, et maintenant au Moyen-Orient, qui affectent également la confiance des ménages. On a eu une variabilité du prix de l'énergie très très important, notamment sur les énergies fossiles qui ont énormément baissé. Donc si l'énergie fossile baisse, ça fait perdre de la compétitivité à la solution pompe à chaleur. Je parlais du marché du neuf, je crois déjà.
Oui, il y a cette question en berne aussi. Voilà. De l'immobilier. Vous savez quoi? On va aussi prendre Cyril qui nous appelle du Var. Bonjour Cyril.
Oui, bonjour.
Vous êtes commercial dans le secteur des pompes à chaleur?
Alors, pas dans le secteur. Je travaille pour un constructeur de maisons individuelles et pour le coup, j'utilise des pompes à chaleur.
Et est-ce que votre question, c'est de savoir s'il y aura la capacité à suivre la demande? Est-ce que la demande est là?
Alors, la demande pour la pompe à chaleur, elle est là, tout comme elle l'a été pour les panneaux photovoltaïques. Le seul sujet, et c'est le même sujet que les panneaux photovoltaïques, ce que je voulais savoir en réalité, c'est qu'un des plus gros industriels fabricants de pompes à chaleur qui s'appelle Atlantique vient de signer un protocole de vente avec un groupe chinois. Et donc va être vendu à des Chinois. Est-ce que la France restera en capacité de produire et de garder son savoir-faire, tout simplement? Parce qu'on essaye de promouvoir les pompes à chaleur, mais encore une fois, notre savoir-faire risque de disparaître ou d'être vendu.
Cyril, je vous propose justement que François Deroche puisse répondre précisément à cette question. On sait que c'était aussi dans un conflit d'héritage ou de passation de pouvoir au sein de l'entreprise. Cette entreprise, qui était un des fleurons français, est en train de passer sous pavillon chinois?
Pas du tout. C'est pas du tout un pavillon chinois, c'est japonais-américain. Oui, alors c'est une entreprise qui quand même produit en France.
Ça ne sera plus sous pavillon français?
Malheureusement, ce sera plus au pavillon français, mais là, il faudrait questionner les dirigeants d'Atlantique. Hein. Donc moi, le sentiment que j'ai, c'est que globalement, toute la production reste locale, il n'y a pas de plan de délocalisation ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est certainement un attrait de capitaux pour pouvoir justement investir
mais
pour le futur.
Mais Cyril, il a raison de poser la question, parce qu'au fond, vous dites on va être en capacité de le faire, oui. Mais c'est vrai que, je disais pavillon chinois, pardon, je me trompais, mais parce qu'effectivement, on parlait juste avant de la problématique aussi des panneaux solaires, c'est ce qu'évoquait Cyril. Ça, pour le coup, quasiment toutes les entreprises françaises ont largement disparu au profit d'entreprises chinoises. Là, ça va être encore l'étranger qui va finalement mettre la main sur un nos fleurons. Est-ce que on est encore en capacité aujourd'hui de concurrencer les États-Unis d'un côté et le Japon et la Chine de l'autre?
Moi, je pense que oui. Les pouvoirs publics l'ont bien compris. Hein, ça vous a peut-être pas échappé, mais l'ensemble des aides sur les C2E qui vont être bonifiées x3 et x5 pour la maison individuelle, par exemple, seront conditionnées à la production locale, française et européenne. Donc oui, ça réassure les industriels qui investissent en Europe de pouvoir garantir en fait une stabilité du marché en fait sur du long terme. C'est ça qui...
La question de la stabilité, il y a aussi cette question de MaPrimeRénov', où il y a eu aussi là beaucoup de soubresauts. J'imagine que ça n'a pas aidé.
Bah ça, c'est un combat qu'on mène avec l'ensemble de la filière pour essayer d'obtenir une visibilité à moyen terme. Si on veut créer les conditions d'un marché, d'une relance saine et durable, il faut avoir une vision. Le temps industriel n'est pas le temps politique. Donc on est obligé, en fait, d'avoir une vision à long terme.
Deux questions, François de Roche. Une sur les leasings pour les PAC. Ça, vous y croyez? Ça peut fonctionner? Ça a été évoqué par le gouvernement?
Alors je pense qu'on en saura un petit peu plus tout à l'heure. Oui, l'offre intégrée, alors c'est pas forcément un leasing, hein, parce que c'est pas adapté pour des solutions pompe à chaleur, mais c'est une offre de financement intégrée qui concerne les ménages modestes et très modestes. Oui, ça peut être un élément accélérateur, mais à la condition qu'on se base en fait sur les capacités en fait d'installation déjà existantes. Hein. On a des professionnels RGE pompe à chaleur. Il faut utiliser l'ensemble des installateurs certifiés pour ça.
Il fait très chaud en période de canicule. Est-ce que les pompes à chaleur, c'est utile?
Certaines pompes à chaleur, oui, il y a des solutions qui sont réversibles, qui permettent de faire du rafraîchissement en été, notamment je pense aux PAC RR, ou dans le marché du neuf, dans certaines conditions de mise en œuvre, avec une PAC RO, on peut également faire du rafraîchissement à travers un plancher chauffant rafraîchissant.
Donc c'est peut-être le moment effectivement de choisir cette solution réversible. Voilà. Merci beaucoup François de Roche d'être venu au matin de votre rencontre cet après-midi à l'Élysée avec toutes les grandes entreprises de l'énergie. Merci aussi à Cyril pour sa question effectivement sur la marque Atlantique qui passe donc sous pavillon américano-japonais, je reprécise les choses. Il est 7h20, Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, on va remonter le temps avec vous. Le pape Léon XIV s'en prend à l'intelligence artificielle.
Et oui, le chef des catholiques se pose en rempart contre les dérives de l'IA. Mais attention, quand les papes font de la politique, c'est souvent des causes perdues. Hein.
Vous nous le dites dans un instant. Arnaud Demange arrive aussi pour pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans moins de 50 secondes sur RMC 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22, mais on remonte le temps chaque matin avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Il faut désarmer l'intelligence artificielle. Voilà l'appel lancé hier par le pape Léon XIV.
Oui, cette phrase est un extrait de la première encyclique du pape depuis son élection l'an dernier. Cette encyclique a été rendue publique hier par le Vatican. Et le sujet principal de ce texte est donc l'intelligence artificielle. Et désormais, la position du pape est claire. Pour lui, il ne suffit pas de réglementer l'IA, il faut, je cite, la désarmer, la soustraire au monopole et la rendre discutable. Tout ça dans un seul but, remettre l'humain au centre de tout.
Il faut dire que l'Église et la modernité, ça n'a pas toujours été une grande histoire d'amour. Hein.
Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Et quand le Vatican s'oppose à la modernité, c'est quasiment toujours avec des encycliques. Hein. Alors une encyclique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un texte signé par le pape. En général, c'est très politique. C'est un message envoyé aux catholiques du monde entier. Les encycliques, il y en a eu plus de 300 depuis le XVIIIe siècle. Et souvent, ça concernait des causes perdues d'avance.
Comme quoi?
Alors, par exemple, une des premières, en 1775, un pape qui s'appelait Piscis publie une encyclique où il condamne eh bien, tout ce que la société de l'époque aimait. Hein, la liberté individuelle, l'athéisme, les philosophes du mouvement des Lumières. Pour lui, ces philosophes étaient même des pervers, hein, des propos très durs qui ont résonné dans toute l'Europe. Mais finalement, entre nous, ça n'a pas changé grand-chose. Hein. 15 ans plus tard, la Révolution française avait lieu et l'Église catholique était mise de côté pour longtemps.
Les papes ne vont pas hésiter non plus à défier des mouvements politiques.
Mais oui, de droite comme de gauche d'ailleurs. Hein. Le Vatican combattait à peu près tout ce qui n'allait pas dans son sens. en 1864. Nouvelle encyclique et nouveau coup de tonnerre. Le pape condamne à la fois le libéralisme, le communisme, le socialisme et la laïcité. Il disait même que c'était des erreurs monstrueuses. Là encore, beaucoup de bruit pour pas grand-chose, puisque 50 ans après, ce sont ces idées qui vont mener le monde pendant tout le XXe siècle.
Est-ce qu'il y a des moments où le pape ne s'est pas trompé ?
Alors oui. Oui, il y a même des fois où les papes sont des pionniers, Apolline, il faut bien le dire. En 1891, le pape Léon XIII est le premier chef d'État à s'indigner de la misère de la classe ouvrière. C'était révolutionnaire pour l'époque. Un demi-siècle plus tard, en 1937, le pape Pie XI s'attaque cette fois au nazisme en dénonçant notamment le culte du chef. Alors, en principe, les encycliques sont publiées en latin parce que c'est la langue officielle du Vatican. Mais pour l'occasion, celle contre le nazisme a été publiée en allemand, histoire que tout le monde comprenne bien à qui on s'adressait. Hein.
Formidable, ça au moins. Donc, les prises de position du pape sont assez imprévisible.
À quelques rares exceptions près, elles sont surtout à contre-temps, et ça s'explique, hein, puisque la religion catholique, comme toutes les religions, évolue moins vite que la société, mais parfois elle se rattrape, c'est ce qui s'est passé hier, hein, dans l'encyclique sur l'intelligence artificielle. Le pape Léon XIV en a profité pour présenter ses excuses au nom de l'Église pour ne pas avoir condamné l'esclavage à l'époque où ça existait. Bref, avec le pape, il faut surtout être patient, Apolline.
Passionnant retour sur l'histoire. Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, 7h25, Arnaud Demanche.
RMC.
Demanche Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour.
Mon invité tout à l'heure, c'est le parquet national, enfin c'est le procureur du parquet national financier, Pascal Prache.
Le parquet national financier débarque chez nous. Alors là, c'est la panique dans les couloirs, que ce soit les politiques chez BFM, les PDG chez BFM Business qui sont là, planquez tout, planquez vos montres, mettez des flic-flac. Emmanuel Le Chypre, il est en train de se changer dans les toilettes pour remplacer la chemise Dior à 700 balles par une Célio à 10 euros. Même le général Pélistrandier est affolé. C'est quoi cette alerte? Bordel, les Vietcong attaquent, ils font riposter. Cette fois, ils n'auront pas Dien Bien Phu. Appelez Biza, appelez les parachutistes. Ah bon, je vous donne un conseil. Avouez tout. Planquez tout. Pascal Prache, bonjour. C'est bon, j'avoue. Oui, je fais de l'abus de bien social. Oui, j'ai ramené une ramette de feuilles de la photocopieuse.
Quoi?
Je suis au bureau à 3h du mat à 22h.
Et mon bic.
Et t'es votre bic. Mais j'ai pas le temps de passer à Office Dépôt, je travaille là tout le temps. Mes ados, pour faire leurs devoirs, ils arrêtent pas de demander des feuilles, parce qu'en ce moment, ils travaillent sur le dossier des gros rouleurs. Alors, il y a peut-être un petit malentendu avec les feuilles. Le PNF, ils ont eu Villepin, Sarkozy, l'Elysée, Fillon, Édouard Philippe, Marine Le Pen. C'est plus un tableau de chasse, là, c'est le Muséum d'Histoire Naturelle. Ils ont leur tête empaillée sur les murs des couloirs. Qui sera le prochain? Attal, je sais pas. Il a l'âge pour ouvrir un compte en banque, Attal? Le PNF enquête sur Dominique de Villepin pour avoir accepté en cadeau deux statuettes de Napoléon alors qu'il était au Quai d'Orsay, parce qu'on le sait, Villepin admire comme deux grands personnages historiques de la nation française, Napoléon et lui-même.
Oui.
Est-ce que Pascal Prache va aussi vouloir perquisitionner chez notre fan de Napoléon à nous, Arthur Chevalier? Parce que Arthur, il doit avoir des statuettes de Napoléon à son domicile.
Plein la carte.
Il paraît même qu'il a une poupée gonflable en forme de Joséphine de Beauharnais. Et certains soirs, quand il ramène une femme chez lui, il se déguise en grognard de la bataille d'Austerlitz, mais en version sensuelle, avec juste le chapeau, les bottes, une écharpe tricolore.
C'est vrai que c'est clair. Je crois qu'il aimerait bien.
Une baïonnette avec un womanizer planté au bout. Alors, on hésitait en régie sur celle-là.
Alors, vous reviendrez
sur cette perquisition à l'Elysée, parce qu'il y a une perquisition à l'Elysée. C'est fou, je m'en remets pas. Dans le cadre d'une enquête sur les panthéonisations. Alors, tout le monde voit ce que c'est, une panthéonisation. C'est quand le président se dit, tiens, les sondages sont pas bons. On va aller déterrer une célébrité consensuelle. On va la faire défiler dans Paris et la mettre au Panthéon. Ça va recréer de l'unité. Voilà, on distrait les gens avec des vœux d'être mortes. C'est un peu comme un concert de la tournée Star 80, vous voyez. Allez, rendez-vous avec Pascal Prache à 8h30. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Il est 7h28. On se retrouve dans un instant. Il n'a jamais fait si chaud, si tôt. Géraldine nous le dira. Et puis, juste après le journal de 7h30, c'est la ministre des Sports qui sera mon invitée. Faut-il continuer à faire du sport dans ces conditions? La ministre des Sports à 7h40 sur RMC. À tout de suite.
RMC. Apolline Matin.
Le journal de Victor Porcher. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. Le premier procès public sur les soupçons d'agression sexuelle dans le périscolaire parisien. Il s'ouvre aujourd'hui. Témoignage à venir de la mère d'un élève de maternelle victime présumée. Record après record. Hier, jour de mai le plus chaud de l'histoire. Il doit être battu. Dès aujourd'hui, nous serons à Rennes, la Bretagne, où c'est une information RMC. Les appels au SAMU explosent. En football, l'entraîneur Bruno Genesio quitte Lille et ça pourrait bien faire les affaires de Marseille.
Une première dans une affaire tentaculaire, le procès public d'un animateur périscolaire parisien.
Qui va débuter en début d'après-midi. Cet homme, qui travaillait dans une école maternelle du 11e arrondissement, est accusé d'agression sexuelle sur 9 enfants de 3 à 5 ans. Constance Bostoen, du service police-justice de RMC, vous avez pu rencontrer la mère d'une des jeunes victimes présumées.
Julie se souvient encore précisément du changement brutal de comportement de son fils de 3 ans, un mois après sa rentrée en petite section à l'école Alphonse Baudin.
Un enfant qui est passé d'un petit clown rigolo à très triste et très en colère. Problème à la fois physique, d'hygiène, de crise tous les jours dès qu'on lui disait qu'il allait rester un peu plus tard le soir.
Au fil des semaines, lui et plusieurs de ses camarades dénoncent, avec leurs mots d'enfant, des agressions sexuelles de la part d'un des animateurs. À l'époque, le traumatisme est si intense que la famille décide de déménager. Un an plus tard, Julie redoute le procès cet après-midi.
On a l'impression de revivre tout ce qui s'est passé il y a un an. Donc beaucoup d'appréhension de revoir l'agresseur en tout cas.
Comme elle, les familles de 8 autres victimes, toutes âgées entre 3 et 5 ans au moment des faits présumés, attendent beaucoup de cette audience, comme l'explique maître Rebecca Royer qui représente la majorité d'entre elles.
Ils aimeraient avoir des aveux, ils aimeraient avoir des réponses à leurs questions et évidemment une condamnation. Que le prévenu soit mis hors d'état de nuire, qu'il ne puisse plus travailler au contact des enfants.
L'ancienne animateur risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende.
Un homme qui nie les faits pour lesquels il est poursuivi. À peine établi hier, le record du jour de mai, le plus chaud de l'histoire, pourrait être battu dès aujourd'hui. 8 départements de l'Ouest sont en vigilance orange canicule. 20 autres, dont Paris, sont en jaune. Ça aussi, c'est du jamais vu au mois de mai. Parmi ces températures historiques, celles enregistrées à Rennes hier. Plus de 32 degrés. Vous y êtes pour RMC, Martin Lange. Les Rennais et notamment les joggeurs ont donc décidé de sortir tôt ce matin pour profiter d'un peu de fraîcheur.
Oui Victor, il a fait très très chaud cette nuit à Rennes. La température n'est pas descendue sous les 20 degrés, fait rarissime en Bretagne. D'ailleurs, beaucoup ont souffert de cette chaleur à l'image de Mathieu.
Très mal dormi, parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Et j'ai au dernier étage, donc l'isolation n'est pas incroyable. Donc tu ouvres les fenêtres et tu croises les doigts.
À 6h, il a donc enfilé son short et ses baskets pour un petit footing de 7 km. Et ils sont nombreux ce matin à profiter des températures encore respirables pour faire du sport. Caroline est partie de chez elle à 5h30.
Là, je me pose pas la question de savoir si je le fais le soir ou le midi. Je pars le matin et avant que le soleil arrive et qu'on ait trop chaud. En plus, la ville se réveille, il n'y a personne. On est tout seul sur le chemin. Les lumières sont jolies, donc non, j'aime bien.
Caroline qui a croisé sur les bords de la Vilaine Romain et Florian, deux autres joggeurs, eux qui ont déjà adopté leur rythme d'été.
C'est vrai que l'été avec Florian, on a l'habitude de faire ça, moi toujours 5h59, c'est le rituel. Partir justement avant les grosses chaleurs et pour pouvoir après être en forme au travail, d'habitude on part un quart d'heure, une demi-heure après, ou on court plutôt le midi. Mais là, ouais, disons qu'on évite les grosses chaleurs, quoi.
34 degrés annoncés cet après-midi ici, alors que de nombreux Rennais reprennent le chemin du travail après ce long week-end de Pentecôte. Heureusement, il y a la clim, me soufflait à l'instant une joggeuse sur les bords de la Vilaine.
Martin Lange en direct de Rennes pour RMC. La Bretagne, vous l'entendez, particulièrement touchée par cette chaleur, en témoigne aussi le nombre d'appels au SAMU. C'est une information que vous révèle RMC ces derniers jours. Solène Leroux, ils ont dépassé de 15 à 30% les niveaux de la même période l'an dernier.
Une forte hausse des sollicitations qui rappelle les périodes de fin d'année et les épidémies hivernales, s'étonne presque Thomas Delomas du SAMU de la Manche.
Un afflux d'appels important qui est la conjoncture à la fois d'un week-end prolongé qui nous vaut une affluence importante de touristes.
Mais aussi une vague de chaleur précoce à laquelle ce département et tout l'ouest du pays n'est pas habitué.
Avec des sollicitations qui sont essentiellement liées à la chaleur, avec des personnes âgées fragiles qui sont malmenées.
Les organismes n'ont pas eu le temps de s'habituer, confirme Louis Soula du SAMU d'Ille-et-Vilaine. Il a dû adapter son dispositif.
Ça nous pose des petits problèmes d'organisation parce qu'il a fallu renforcer les équipes. La situation, elle est bien maîtrisée. Et bon, après, c'est dans la durée que ça risque d'être compliqué pour nous. Surtout s'il y avait un pic d'hospitalisation important.
Pour éviter de surcharger un système de santé en tension, tout le monde doit faire preuve de bon sens, insiste-t-il. Ses conseils, boire souvent, protéger les plus fragiles et au moindre doute, appeler le 15.
Et juste après votre journal, Victor, la ministre des Sports répondra à mes questions, Marina Ferrari, sur la pratique du sport en temps de canicule, évidemment, mais on parlera aussi Ligue des Champions et e-sport.
Et c'est en pleine canicule que des centaines de passagers sont restés bloqués plusieurs heures sur les rails. Hier, deux TGV, un Paris-Nice et un Lille-Marseille, victimes d'un défaut d'alimentation. Les wagons, transformés en véritables fours, ont dû être évacués sur les voies avant de repartir. Retard en cascade par la suite et retour à la normale ce matin. Au Moyen-Orient, des frappes américaines surprises. Elles ont visé des sites de lancement de missiles et des navires iraniens, notamment dans le détroit d'Ormuz. Le chef de la diplomatie américaine assure qu'un accord reste possible dans les prochains jours.
7h36 en football, Lille se sépare de Bruno Genesio.
Son entraîneur qu'il a hissé cette saison sur le podium de Ligue 1. Ce départ, on le sentait venir, David Alias. Il a donc été confirmé hier par le LOSC.
Oui, c'est ce qu'a annoncé le club hier soir via un communiqué sur son site internet et ses réseaux sociaux. Après deux saisons réussies à la tête des Dogs, cinquième de Ligue 1 l'an passé et une élimination en huitième de finale de la Ligue Europa, le LOSC a fait encore mieux cette année en terminant troisième du championnat avec en prime une qualification directe en Ligue des Champions, compétition qu'il n'avait plus disputée depuis trois saisons. Arrivé en 2024 dans le Nord, Bruno Genesio avait apporté confiance et stabilité à Lille, mais depuis quelques semaines, la rumeur de ses envies d'ailleurs enflait. Il en avait fait part à son président Olivier Létang à plusieurs reprises en fin de saison. Mais pour l'instant, l'ancien entraîneur lyonnais garde le silence sur son avenir. Mais son nom circule déjà dans les couloirs d'un autre Olympique, Marseille, en pole position pour attirer le technicien français.
Gaël Monfils à Roland-Garros, c'est terminé. Son ultime match porte d'Auteuil perdu en 5-7 hier soir contre Hugo Gaston. 4 Français sur 9 se sont qualifiés hier pour le deuxième tour. Ils seront encore 9 en lice aujourd'hui. Tous les matchs à suivre sur la radio digitale RMC 100% terre battue.
Et puis le quintet, c'est à Vincennes.
Départ à 18h25, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 8, Lolistar. Son outsider, le 14, Lyra Potry.
C'était le journal de Victor Porcher. Il est 7h38 et c'est l'heure de jouer. C'est le moment de vous inscrire à notre jeu pour tenter de remporter jusqu'à 10 000 euros ou le pack Coupe du Monde. Il y a un vidéoprojecteur, un maillot des Bleus, un ballon officiel, une boîte Lego de trophées. Devenez sélectionneur pour un temps. Sélectionnez un joueur dans la liste des 26 et vous repartirez avec un cadeau incroyable. Vous envoyez dès maintenant liste au 7-32-16, liste au 7-32-16 et vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Il est 7h38. Bonne chance à tous.
75 centimes par SMS, 3 SMS max. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
8 morts en 2 jours liés à la chaleur, noyade, course à pied, aérox. Bonjour Marina Ferrari.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative. Il faut adapter les horaires et les efforts. Voilà le message que vous allez faire passer dans un instant. Et puis on parlera évidemment PSG qui joue sa finale de la Ligue des Champions samedi soir. Il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Face à la canicule, faut-il encore faire du sport ? Encore 3 morts hier dans des noyades. Une participante à une compétition d'aérox est décédée d'hyperthermie à Lyon. Bonjour Marine Ferrari.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio. Vous êtes la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative. Au total, ce sont 8 morts dans des activités sportives à cause de la chaleur, surtout le week-end prolongé. Vous tirez le signal d'alarme ?
Oui, absolument. D'abord, je voudrais avoir une pensée pour les familles des victimes, parce que c'est vrai que cet épisode caniculaire avec ces morts nous a tous laissés un peu sous le choc ce week-end. Bon, rappeler les consignes de sécurité. D'abord, quand on pratique une activité physique par une telle chaleur, on veille aux horaires, on s'hydrate bien, on prend des temps de pause, on ne surestime pas ses capacités. Donc, c'est un message de vigilance avant tout que je viens délivrer.
Quand vous dites on ne surestime pas ses capacités, j'imagine que vous pensez en particulier à cette femme de 28 ans qui est morte dans le Rhône dans une compétition de aérox, à ce coureur dimanche à Paris dans une course. Ça veut dire qu'ils sont partis, ils ont pensé qu'ils y arriveraient et ils se sont écroulés.
Alors, je ne suis pas là pour dire ce qui s'est passé ou pas. En tout cas, il y a des signes qui doivent nous alarmer quand
Lesquels?
On pratique le sport. Bah, une surchauffe qui intervient, des maux de tête importants. En fait, quand on pratique du sport par de telles chaleurs, c'est une déshydratation qui peut arriver assez rapidement. rapidement. Donc porter les bons vêtements adéquats et puis penser à s'irriguer, à s'hydrater le plus souvent possible, se passer sous l'eau, etc. Donc les organisateurs sont bien évidemment informés. Il y a des consignes qui sont mises en œuvre dans le cadre de fortes chaleurs que vous retrouvez sur le site du ministère. Et bien évidemment, nous sommes très vigilants.
Les organisateurs, comme vous dites, Marina Ferrari, est-ce qu'ils vous écoutent et à partir de quand est-ce qu'il faut qu'ils prennent une sorte de principe de précaution? Est-ce qu'il faut annuler des compétitions sportives cette semaine?
Alors, en fonction de l'évolution de la météo, on nous annonce un pic de chaleur qui va continuer. Il pourrait y avoir, je parle bien conditionnel, des annulations. On regarde bien évidemment les conditions météorologiques, mais on va pas regarder que la chaleur. On va regarder le taux d'humidité aussi qui peut beaucoup jouer, le vent, l'ensoleillement sur le parcours, etc. Et on peut décider à ce moment-là, effectivement, un organisateur peut décider de suspendre ou de reporter une compétition.
Avec la question aussi d'un pic d'ozone en Île-de-France et dans la vallée du Rhône, donc il y a aussi cette question-là qui se surajoute, la question de la pollution. Quand vous dites, bon, c'est les organisateurs qui décident, c'est-à-dire que vous leur laissez tout loisir de décider?
Alors,
ou est-ce qu'il y aura des instructions
données? Quand vous avez des canicules, bon, on a des protocoles canicules qui sont en place. Quand vous avez des vigilances, par exemple, orange ou rouge, notamment, on interdit les compétitions quand c'est en vigilance rouge. Après, c'est à l'appréciation effectivement des organisateurs. Mais vous le savez, le code du sport aujourd'hui impose de sécuriser la pratique sportive, que ce soit en termes de compétition ou en termes d'entraînement. Donc il y a des obligations qui s'imposent, qui sont, je le rappelle, de créer des îlots de fraîcheur, d'amener des points d'hydratation, de renforcer la surveillance médicale sur les compétitions sportives. Donc voilà, donc il y a quand même des choses qui sont mises en œuvre depuis longtemps, et c'est une vigilance sur laquelle nous travaillons depuis des années au ministère des Sports, puisqu'on le sait, aujourd'hui, des épisodes caniculaires sont appelés à se manifester de plus en plus souvent, et donc il faut adapter nos pratiques sportives.
Et je vous propose, Madame la Ministre, qu'on accueille Mathieu, qui nous appelle au 32-16 depuis Lille, et qui est kiné. Bonjour Mathieu.
Bonjour Apolline.
Vous avez effectivement vu, notamment, et vous le savez autour de vous aussi par votre pratique, que le sport, par ces moments de grande chaleur, faut être hyper vigilant.
Il faut être vigilant, mais après c'est encore du cas par cas. Quelqu'un qui fait jamais de sport et qui décide d'aller courir un 10 km sous 35 degrés, là, c'est... En fait, le sport dans la chaleur, ça fait...
Je vous entends pas bien, Mathieu. Est-ce que vous pouvez vous mettre à un endroit où vous ne bougez pas et où ça capte?
C'est bon là?
Ouais, c'est bon, ne bougez plus. Allez-y, je vous écoute. Oui.
Non, je disais, après il y a des compétitions comme les Ironman, comme tous le marathon des sables, c'est ce que je mettais dans mon message.
Ouais.
Lorsque vous inscrivez au marathon des sables, il est indispensable de s'entraîner dans la chaleur, parce que si vous entraînez sous 8 degrés et que vous arrivez dans le désert marocain où il y a 45 degrés, ça ne va pas fonctionner.
Et donc, après, cette chaleur, elle doit être prise en compte, en fait.
Ça doit être pris en compte, mais ça fait aussi partie de l'entraînement. Ça s'appelle l'acclimatation à la chaleur, mais c'est indispensable. C'est indispensable.
Vous le faites, Mathieu?
Hier, j'ai fait 70 km, il faisait 35, 36 degrés sur l'île. Ouais, ouais.
Vous avez fait 70 km.
Après, il faut s'hydrater, il faut mettre des électrolytes.
Sous la chaleur, en pleine journée?
Ouais.
Et pas de problème?
Non, pas de problème, mais c'est parce que je suis régulièrement entraîné. Il y a plusieurs années, j'ai fait un Half Ironman à Vichy où il faisait super, super chaud. Mais si vous faites aucun entraînement dans ces conditions au préalable, ça peut pas aller, mais ça fait aussi partie de l'entraînement.
C'est ce qui me frappe, Mathieu, c'est ce que vous dites, c'est une question aussi d'acclimatation. Sauf que le problème, Madame la Ministre, c'est justement le choc. Quand on repense au week-end précédent,
absolument,
où il faisait un temps absolument immonde sur toute la France,
absolument,
extrêmement froid, où on avait l'impression que c'était vraiment l'hiver, le choc, le contraste, c'est aussi ça, le risque pour le corps. Hein.
Ah oui, absolument. On a vécu un différentiel de température très important, donc c'est vrai qu'on n'était pas du tout préparé, les corps n'étaient pas préparés. Et votre auditeur a raison de le rappeler. Il y a des athlètes qui sont absolument préparés, qui s'entraînent sous des pics de chaleur importants. Ça a été le cas notamment, Arthur hier l'a dit à Roland-Garros, il est habitué lui à aujourd'hui sur le tournoi par exemple de tennis, nos joueurs sont habitués à jouer sur des températures importantes en Australie, en Amérique du Sud par exemple. Donc après il y a une habitude de la pratique. C'est pour ça que notamment nous avons un plan national d'adaptation au changement climatique pour les sports qui a été donc établi en 2024, qui court jusqu'à 2030 pour justement adapter les pratiques et changer la donne pour que nous soyons à même de répondre au réchauffement climatique.
Merci pour votre témoignage, Mathieu. Une question évidemment, Madame la Ministre, sur ce qui se passe samedi, 18h, PSG-Arsenal, la finale de la Ligue des Champions. Comment est-ce que vous allez gérer, en cas de victoire ou de défaite d'ailleurs, les suites à Paris? Il n'y aura pas de parade sur les Champs-Élysées, il y aura un bain de foule autorisé en revanche sur le Champ de Mars, c'est bien ça?
Alors, aujourd'hui, donc le dispositif...
Désormais, quand on parle foot, on est obligé de parler aussi quand même question de sécurité.
Alors malheureusement, il faut parler question de sécurité comme dans tous les grands rassemblements populaires, foot ou autres. Je crois qu'il faut absolument que nous soyons en capacité d'organiser les choses du mieux possible, tirant les conséquences de ce qui s'est passé l'année dernière, parce que le foot doit rester une fête. Et il y a des supporters, mais des hooligans ou des casseurs qui sont là. Il ne faut pas mélanger les deux. Il y a des gens qui sont vraiment là pour fêter le football, et je crois que c'est une fête qui doit être populaire. Au moment où on prépare la Coupe du Monde, vous l'avez rappelé.
Vous distinguez supporters de hooligans désormais.
Ah oui, absolument, absolument, oui, oui, tout à fait. Il faut vraiment faire attention. Et puis en plus, vous avez en dehors de ça aussi des gens, des casseurs qui se mettent dans les cortèges ou qui se mettent dans les fêtes populaires pour pouvoir commettre des méfaits.
Est-ce qu'il y a une question particulière avec le PSG, avec les supporters avec ou les hooligans autour du PSG?
Pas particulière avec le PSG d'une manière générale. On voit bien que c'est un phénomène aujourd'hui qui d'ailleurs nous inquiète et que nous surveillons au plus près, sur lequel nous travaillons. Vous avez vu qu'il y a un texte qui est en cours, texte riposte, qui va nous permettre de renforcer notamment les interdictions administratives de stade. Je crois que c'est important puisqu'aujourd'hui il ne faut pas qu'une poignée d'individus prennent en otage, et ben tout simplement, de nombreux individus.
Sauf que, comme vous le dites, il s'agit parfois, vous citiez des casseurs, comme vous dites, qui ne sont pas dans les stades, qui viennent après les matchs.
Mais qui viennent aussi sur les points de rassemblement se mêler pour ensuite aller commettre leurs méfaits. Voilà, donc c'est pour ça que la décision qui a été prise, c'est qu'il y aura effectivement un moment festif dans l'enceinte même du Parc des Princes, donc ce qui nous permettra d'assurer une meilleure sécurité, et puis effectivement, cette tour Eiffel qui sera mise aux couleurs du Paris Saint-Germain.
Et vous vous attendez effectivement à ce bain de foule possible autour du Champ de Mars. Un mot aussi sur les Enhanced Games, qui sont ces espèces de jeux de contre-jeux olympiques où là, tout est permis, c'est-à-dire dopage à volonté. Est-ce que ça vous inquiète? Ça s'est terminé ce week-end.
Alors ça m'inquiète et c'est extrêmement dangereux, je le rappelle, puisque c'est la santé des athlètes qui est en jeu aujourd'hui. Quand on lutte contre le dopage, c'est bien évidemment avant toute chose pour protéger l'intégrité physique des athlètes. On ne se dope pas de manière... c'est pas neutre. Donc il y a des risques importants pour la santé, et c'est Enhanced Games, je les ai condamnés fermement, ils contreviennent complètement aux valeurs du sport.
La Coupe du Monde de l'e-sport qui débute le 6 juillet à Paris, événement majeur pour la France, avec une question aussi, l'idée que ça puisse rentrer dans les écoles, dans les collèges, est-ce que vraiment c'est en route cette histoire? Il y a des médecins qui se sont inquiétés dans une tribune.
Alors merci de cette question, puisqu'en fait il n'a jamais été question de faire rentrer l'e-sport dans les programmes scolaires.
Ah d'accord, jamais question.
Alors c'est clair et net,
il n'en est pas question.
Okay. Ça portait sur deux choses. D'abord, il y a une expérimentation en cours aujourd'hui qui se termine sur l'Académie de Versailles dans le cadre du périscolaire, c'est-à-dire en dehors des temps scolaires. Comment on apprend aux enfants à justement respecter les temps d'écran, à limiter la pratique, à avoir des bonnes pratiques, comment on éveille les parents aussi sur cette problématique, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, comment on accompagne aujourd'hui nos jeunes e-sportifs? Vous savez qu'on a parmi les meilleures équipes de France, du monde, qui sont françaises. Et comment donc aujourd'hui on accompagne aussi ces jeunes e-sportifs, au même titre que les autres sportifs, dans l'organisation de leur temps scolaire pour le coup. Voilà, donc c'est deux choses bien différentes, mais il n'a jamais été question, je le redis, de mettre de l'e-sport dans les programmes scolaires.
Merci Marina. Merci à Marie d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce matin sur RMC. Ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie Associative, il est 7h52. Notre voix de gauche, Cécile Duflot, est rentrée dans ce studio. Bonjour Cécile.
Bonjour Apolline.
7 Français sur 10 sont pour taxer les super profits. Ensuite, la question, c'est pourquoi faire? Et pour vous, ça doit servir à la transition écologique.
Oui, d'ailleurs, je pense que les Français ont compris. Les entreprises pétrolières gagnent énormément d'argent, les gens n'arrivent plus à s'en sortir, on vit une vague climatique, il faut taxer les super profits et engager la transition écologique. C'est logique.
Et c'est votre voix de gauche dans un instant, 7h52.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de gauche. Mais d'abord le bonus, Mathieu, avec le retour de Vianney.
Si la verse touche toi.
C'est confirmé. Après s'être retiré pour construire une cabane dans les bois, Vianney le charpentier, comme il s'est surnommé, isolé, avec un lit, un poêle et un piano, il en a fait l'annonce hier, une nouvelle tournée à partir du printemps 2027. Voilà un an qu'il était éloigné des scènes et des plateaux. Dans sa cabane, il avait pris de quoi enregistrer de nouvelles chansons. Et dans une vidéo publiée sur Instagram hier, la barbe a poussé, les cheveux aussi. Il faut dire que Ermite, c'est un look hein, aussi. On le voit dessiner une carte de France et pointer les villes de sa tournée, Paris, Lyon, Marseille, etc. De mars 2027 à mars 2028. La billetterie ouvre demain matin à 10h et il y aura de la demande. Ça fera 5 ans que Vianney n'avait plus pris la route pour une vraie tournée.
RMC, Apolline Matin,
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est mardi, il est 7h54, c'est l'heure de la voix de gauche. Bonjour Cécile Duflo.
Bonjour Apolline.
Cécile, c'est un institut de sondage qui a réalisé ce sondage qui dit que 7 Français sur 10 veulent taxer les super profits des géants pétroliers. 75% jugent même dérangeant ou inacceptable les bénéfices de Total Energy. Vous êtes la voix de gauche sur RMC, donc pour vous, ça y est, faut y aller quoi.
Bah, en plus, c'est particulièrement intéressant qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est la semaine cocktail des problèmes. Donc une vague de chaleur historique liée au changement climatique, la dépendance aux énergies fossiles importées qui nous coûtent très cher et une question de justice sociale qui commence à devenir très prégnante avec des difficultés de boucler les fins de mois pour des gens qui dépensent de l'essence pour travailler. Et donc, les Français, ils font le lien et ils trouvent ça assez logique de soutenir à la fois le développement des renouvelables et la taxation des super profits.
Sauf que pendant ce temps-là, Total Energy répond qu'ils ont aidé les Français justement en plafonnant les prix à la pompe.
Bah écoutez, Total et les compagnies pétrolières, ils sont surtout en train de s'enrichir énormément. Oxfam International avait sorti un rapport qui avait montré que 3 000 $ par seconde, c'est ce que les compagnies pétrolières vont engranger chaque seconde dans le monde en 2026. Et surtout, je pense que tout le monde a bien compris que quand il y a des hausses du prix du baril, il y a des hausses à la pompe. Mais bizarrement, les baisses du prix du baril n'engendrent pas ces baisses à la pompe. Et donc, ça se voit aussi que ces compagnies pétrolières distribuent massivement des dividendes et procèdent à des rachats d'actions, donc elles gagnent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'argent.
Pour vous, c'est possible de faire ces taxes sur les super profits, sachant qu'évidemment, Total est une entreprise mondiale?
Alors, c'est possible et c'est possible de le faire même plus largement. Et d'ailleurs, c'est le FMI lui-même qui l'avait montré en 2022. Ce que dit ce sondage aussi, c'est qu'on attend justement ça. On attend un État stratège, un État investisseur, un État qui dessine l'avenir, qui laisse pas les choses se faire comme ça à volo. Et d'ailleurs, à l'inverse, les dispositifs du gouvernement, les petites primes versées à droite à gauche, sont perçus comme très court-termistes et que ça ne suffit pas. Donc ce que révèle ce sondage, c'est, je pense, la volonté que l'État reprenne son rôle de planification et de regarder vers l'avenir.
Et ce rôle, cette question justement, ça va au-delà de la taxation sur les super-profits?
Oui, parce que le but, c'est pas juste de taxer les super-profits. Le but, c'est d'engager la transition. On est face à un choix. Soit on laisse grossir la rente des profits de ceux qui aggravent la crise climatique, parce qu'il faut se le dire, la consommation de pétrole, c'est des rentes énormes pour les compagnies pétrolières et une catastrophe climatique. Et je pense d'ailleurs que le choix inverse, celui de la sobriété, de pouvoir vivre normalement et d'éviter la catastrophe climatique qu'on est en train de vivre, ce sera ça le vrai débat de 2027, beaucoup plus que des débats périphériques qu'on connaît aujourd'hui.
Merci Cécile. Cécile Duflo, voix de gauche sur RMC. Demain, ce sera la voix de droite. Louis Sarkozy, il est 7h57. Dans un instant, le journal de 8h, avec à la une la canicule dès le mois de mai. Nous irons à Nantes où l'on s'inquiète des températures dans les salles de classe. Géraldine nous dira que les températures ne devraient pas baisser avant le week-end. Et puis juste après le journal, il sera question d'économie avec vous, Emmanuel. Emmanuel, les Français aiment les centres-villes.
Alors non seulement ils aiment les centres-villes, mais nos centres-villes vont aussi beaucoup mieux que ce qu'on croit.
Vous allez nous le dire dans un instant. Il est 7h57 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.